Bonjour, c'est Une vie, une œuvre, et aujourd'hui, Sophie Maurer et Yvon Croisier vous offrent une plongée dans la peinture avec le portrait de Jean de Gotex. Mince et ascète comme une lame, le peintre Jean de Gotex est né à Satonécamp le 25 février 1918 et nous quitte à Paris le 9 décembre 1988 à l'âge de 70 ans. On dit de sa peinture qu'elle est aussi pure que belle, écriture et musique du noir sur le blanc ou du signe à l'écriture à la manière des peintres chinois ou orientaux. Du geste au signe, du signe à l'écriture, de l'écriture à la ligne. On retrouve ces grandes peintures d'une formidable qualité selon une chronologie de 40 ans de travail. Des toiles et dessins qui font naître un peu de silence dans ce monde intranquille. Il reçoit le prix Kandinsky en 1951 et le Grand Prix National de Peinture en 1981. Sa méditation s'oriente progressivement sur le support et la matérialité de l'œuvre. Ainsi, ces papiers, car le mot « dessin » est exclu de son vocabulaire, peuvent montrer leur grain et leur texture interne, magnifiés par déchirure, scarification, surcollage puis arrachage. Le pinceau n'a plus droit de cité. Son œuvre restera celle d'un extrême minimalisme où jamais la rigueur ne prend le pas sur une extrême sensibilité. « Je voudrais que ma peinture soit une plus grande respiration », confie à petits mots Jean de Gotex, zen et inspirant.
Jean de Gotex est un artiste peintre à 100%. C'est d'ailleurs assez exceptionnel. Enfin, il y a 40 ans de travail, presque en continu.
Jean de Gotex fut un peintre important de la deuxième moitié du XXe siècle. La peinture, pour lui, était sa manière de respirer. Il regardait les choses dans les vivants. Vous avez là une photographie de Cartier-Bresson qui a saisi Jean de Gotex regardant une autre œuvre d'art. Il est en train de danser en quelque sorte l'œuvre. Il la vit. Il vivait les choses en fait.
Là, l'œuvre, elle est. C'est fulgurant. Hein. C'est. On va dire une percée dans un fond bleu qui déjà initie le vide, qui va le poursuivre une grande partie de sa vie. On a des tracés rouges qui vont cingler la surface, des taches noires travaillées de manière très, très, très rapide comme une écriture, comme des signes. De Gotex, c'est un peintre qui va travailler sur la matière, sur les vibrations de la matière.
À quelqu'un qui ne saurait rien de Jean de Gotex, qui peut-être entendrait ce nom pour la première fois, que diriez-vous ? Qui était Jean de Gotex ?
Je dirais d'abord que je ne suis pas étonné que la personne ne le connaisse pas, parce que je crois que c'est quelqu'un qui souffre d'une sorte de manque de notoriété par rapport à la qualité et l'importance de son œuvre. Et je lui dirais qu'il est d'autant plus urgent de regarder ce travail que je suis convaincu que Jean de Gotex est ce qu'on pourrait appeler une forme de source cachée pour l'art contemporain. C'était, pour le meilleur, mais aussi peut-être un peu pour son malheur, ce qu'on appelle un artiste pour artiste. C'est un artiste que beaucoup d'artistes ont regardé et beaucoup d'artistes ont été inspirés, pas simplement par ce qu'il faisait, mais par la manière dont il faisait. Il y a vraiment, je suis convaincu chez lui, quelque chose comme une forme d'attitude. La question éthique est extrêmement importante chez de Gotex.
Il fait parler les vides. Hein, on a des éléments qui s'effacent finalement au profit de tout ce qui est autour et qui pourrait presque sortir de la toile. Voilà. Donc elle est toute simple, hein, tendue sur châssis, sans cadre, sans rien. Mais voilà, elle se suffit elle-même.
Jean de Gotex. À l'essentiel. Sophie Maurer, Yvon Croisier.
Alors, le souvenir de Gotex lui-même, disons, c'était un homme qui avait beaucoup d'allure et qui avait de plus en plus d'allure avec l'âge. C'était un bel homme, pas très grand, mince, un petit peu musculeux, mais pas trop, sec d'une certaine façon, pas un gramme de graisse, et qui se déplaçait avec une certaine... je ne sais pas si on peut dire ça pour un homme, mais c'était tout de même très viril d'allure, mais enfin, une certaine grâce. Il avait l'allure d'un artisan révolutionnaire lyonnais, avec ce qu'il avait, non pas été comme artisan, mais révolutionnaire, oui. Il mettait des petites lunettes de métal rondes. Donc, il faisait assez trotskiste, bien qu'il n'était plus libertaire que trotskiste. Et ce que je peux dire, c'est qu'il, enfin, à mon avis, il avait beaucoup d'allure. D'ailleurs, les gens autour de lui le disaient. Et il pouvait impressionner, mais ça, c'est autre chose. Hein. Mais par du point de vue physique, il avait beaucoup d'allure.
Moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais il y a beaucoup de photographies qui le représentent. Et c'est d'ailleurs assez frappant, ces photographies. Je ne crois pas que ça soit un effet de l'heure. Il y a une espèce d'élégance non ostentatoire de l'homme, quelque chose de l'ordre du dépouillement, manifestement très ascétique. Et quand on confronte les photos de l'homme avec ce qu'on voit de l'œuvre, il semblerait en effet que la question de l'ascétisme soit une question tout à fait pertinente. C'est presque devenu un cliché sur lui. On y voit peut-être jusqu'à l'excès quelque chose comme une forme de moine zen. Je crois que les choses sont un petit peu plus complexes que cela. Mais on est, il le dit lui-même, ne pas en rajouter, ôter les choses, être dans une attitude économe, c'est une question éthique pour un homme qui commence à travailler dans l'après-guerre, dans les années 50, qui immédiatement, je crois, situe sa posture comme une sorte de manière de réinterroger la peinture en la désencombrant d'une certaine manière.
Dominique Bollinger, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jean de Gotex, qui a été pendant 40 ans le compagnon de votre mère ?
Je n'ai pas un souvenir extrêmement précis parce que j'avais 9 ans. En plus, j'avais été malade pendant une grande période que j'avais passée chez les amis de ma mère. C'est là que j'ai passé ma convalescence. Et quand je suis revenu dans la rue Boulard, il était installé. Enfin, installé. On ne voit pas de Gotex s'installer avec énormément d'impédimenta. Mais enfin, disons qu'il était là, à déjeuner, à dîner, etc. Bon. Et il faut dire que ma mère, quand même, avait eu plusieurs compagnons auparavant, que j'ai des silhouettes comme ça. Alors pour moi, au début, c'était un de plus, quoi. Et puis en fait, ça s'est avéré une histoire extrêmement sérieuse. Alors pourquoi ils se sont trouvés l'un l'autre ? Ça, c'est délicat à dire, toujours. J'ai retrouvé des lettres qui montrent qu'il y a eu une immense histoire d'amour entre ma mère et lui. Enfin, elle était artiste elle-même. Elle a fait ensuite l'impasse sur toute carrière artistique. Et de Gotex a trouvé chez elle quelqu'un qui non seulement comprenait sa peinture, mais le stimulait. On peut dire que les premières années sont de l'ordre de la coproduction. Jean s'est toujours appuyé sur ma mère qui a fait des travaux alimentaires. Alors bon, il y a ce rôle, on pourrait dire, matériel qui a été fondamental parce que finalement ça lui a évité à lui d'avoir à perdre son temps d'une certaine manière.
Et vous évoquiez sa vie antérieure. Que savez-vous de son enfance, de sa jeunesse ?
Alors, l'enfance, la jeunesse, ça, il a toujours partagé ça avec ma mère, c'est-à-dire, on ne raconte pas son passé. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit caché, mais ça n'a pas d'intérêt. Et alors, il est né, il faut dire, il est né quand même à Satonnet, qui est une petite ville pas tellement loin de Lyon. Et lui et ses parents sont venus habiter à Lyon assez vite. Il est venu à Paris, mais je crois à peu près à l'âge de 15 ans, très très vite. Il y a eu quelques petites, semble-t-il, tentatives d'aller dans des académies, faire des croquis, entre autres choses, des croquis de 2 minutes. Il rappelait ça de temps en temps parce qu'évidemment, dans la rapidité, la saisie, il y avait quelque chose qui annonçait quand même la dynamique de son œuvre plus tard. À Paris, il a mené une existence que je pense extrêmement précaire. Et ça, il faut dire quand même que ce qui caractérise toute la première partie de sa vie, c'est la misère. Qu'est-ce que je peux dire de cette période? Qu'est-ce que j'en connais? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en est resté? Ben, un intérêt quand même qui s'est jamais démenti pour la politique. Et ça, j'ai partagé ça avec lui à travers des conversations interminables, le dos contre des radiateurs, parce que dans l'ensemble, il faisait tout de même assez froid et ces radiateurs avaient un petit peu de chaleur. Donc, je parlais politique avec lui pendant des heures et des heures, enfin bon.
Caroline Bouteiller-Laurence, vous êtes docteur en histoire de l'art. En 2013, vous avez soutenu une thèse consacrée à Jean de Gotex. Que sait-on de son enfance et de sa jeunesse? Qu'avez-vous pu en reconstituer à partir des archives?
Alors, à partir des archives, rien du tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a détruit beaucoup d'archives, de ses propres archives, qu'il a fait le ménage à un moment. Donc, avant les années 50, il y a quasiment rien. Lui-même, déjà, il considérait que sa carrière a commencé en 1950, même si on a des choses qui datent d'avant. D'abord, il y a une partie figurative. C'est un laps de temps assez court, jusque dans les années 49-50. Donc c'est toute la période de sa formation, on va dire. Même s'il est autodidacte, il a été un petit peu à la Grande Chaumière. Et lui-même, dans ses notes, hein, parce que j'ai quand même travaillé sur ses archives, dans ses notes, il parle de Van Gogh, de Gauguin. Alors toutes premières toiles figuratives, par exemple celle de Tunisie et d'Algérie, voilà, c'est fauve, hein, c'est clair. Et puis après, il a voulu lui-même, de toute façon, il a dit qu'il avait voulu faire table rase de l'histoire de l'art. À partir des années 49-50, donc là, il bascule vraiment dans l'abstraction.
Voilà. Savez-vous comment il a traversé toute la période de la guerre?
Il a donc été mobilisé en 39 et démobilisé en 40. Alors il est resté un petit peu en Algérie et puis ensuite, bon voilà, il est rentré, mais dans un Paris occupé. Et par exemple, il a exposé en 41 au salon des moins de 30 ans. Donc il a continué à peindre, il avait un atelier rue du Faubourg Saint-Jacques. Donc je pense qu'il continuait à peindre, que c'était une façon. Mais c'est tout, on n'en sait pas plus.
Qu'est-ce que je peux signaler? Qu'est-ce que je peux dire de sa vie antérieure? Ben, il a été, oui, bien sûr, c'est pas négligeable. Il a été marié, il a eu une petite fille, Frédéric, avec sa femme Marie-Rose Patrix. Bon, alors ça a été la vie de je sais pas si on peut dire de Montparnasse, parce que Montparnasse, on a l'impression que c'était des cuites continuelles et puis une vie très dissolue. Ça, c'est pas du tout le genre de Gotex. Militant révolutionnaire, oui, mais toujours avec une certaine rigueur.
Et vous, lorsque vous viviez avec lui, est-ce que vous saviez à quoi il était en train de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait? L'œuvre elle-même?
Oui, d'une façon croissante, quoi, parce que je comprenais de mieux en mieux. J'ai eu des moments où j'étais un petit peu dérouté. Enfin, j'ai été très proche de lui et de ma mère dans un séjour en Bretagne. C'est la seule fois où je l'ai vu travailler, parce qu'il se montrait très très peu. Il ouvrait son atelier avec beaucoup de précautions, mais pour le voir travailler, alors là, il fallait vraiment... Bon, même ma mère ne le voyait pas la plupart du temps. Là, je l'ai vu parce qu'il travaillait à l'extérieur. Il posait une feuille de papier sur l'herbe en la coinçant par des galets, parce que c'était au bord de la mer. Et là, il faisait des encres de Chine, des vagues, des grèves, des vagues. Enfin, ça s'appelait vague, mais ça, ce qui l'intéressait, c'était pas la forme figurative, mais l'atmosphère et la dynamique, l'expression de la nature qui pouvait y avoir dans ces lieux. C'était à Port-Sal, un petit port du Finistère.
Un autre lieu qui a beaucoup compté pour lui, c'est Gordes. Qu'y a-t-il trouvé?
Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé à Gordes? Il a trouvé d'abord, quand même, je pense à une chose un peu, comment dire, un peu triviale, mais il a trouvé de l'espace pour travailler. Parce que à Paris, il avait un petit atelier. Et vraiment, c'était quand même trop étroit. Il avait vraiment le désir de faire de grandes choses. Et c'était très difficile, bien qu'il ait été très ordonné, très propre dans ce qu'il faisait, etc. Alors à Gordes, il a trouvé l'espace. Il a trouvé un ciel d'un bleu qui l'a toujours absolument fasciné. Mais alors, ce qu'il a trouvé à Gordes, en dehors de ça, c'est aussi... les fameux murs de Gordes. Toutes les restanques étaient bordées de murs de pierre, il faut dire, très très beaux. Et dans ces pierres, ça l'a toujours... C'est vraiment les murs de Gordes, ça a joué un rôle très important quand même.
Maurice Benhamou, vous êtes critique d'art, vous avez également bien connu Jean de Gotex sur le plan personnel. Est-ce que vous pourriez évoquer pour nous les circonstances de votre rencontre avec lui?
Oh, c'est une rencontre qui a été assez triste. J'avais vu une exposition de Gotex qui avait été présentée au public et il ne s'agissait en fait que de traces de peinture verticales, un seul geste. De haut en bas, d'un très grand format, et ça m'avait paru tout à fait fascinant de voir la peinture réduite à son essence, en quelque sorte, à ce geste que tous les peintres font, c'est-à-dire de laisser une trace de peinture sur une toile. Donc j'ai connu l'adresse de Jean de Gotex et je suis allé frapper à sa porte un après-midi, tout simplement. J'ai trouvé un homme... malheureux, prostré, arrivant à peine à parler. Et il m'a expliqué qu'il venait de perdre une fille de 16 ans qui venait de mourir dans un accident d'automobile. Il avait été prévenu, comme ça, très brutalement. Il avait passé des moments atroces. Et là, bon. Donc, nous avons parlé de choses et d'autres et pas de peinture. Je suis revenu le lendemain, je suis revenu plusieurs fois, et c'est devenu un ami, mais un ami très proche. Nous ne nous sommes pas quittés pendant jusqu'à sa mort en décembre 1988. Il recherchait visiblement quelque chose. Il était habité par quelque chose qu'il cherchait dans la réalité. Il était très, très singulier dans sa recherche, surtout à cette époque, très marqué par le surréalisme. Le surréalisme était très loin de lui, il n'aimait pas les images, et bon, il y a eu une sorte de malentendu entre André Breton et lui. André Breton avait vu une de ses expositions, il avait été très, très emballé, il avait même fait l'acquisition d'une toile qui se trouve à l'heure actuelle à Beaubourg. Bon, donc il a demandé à Jean de Gotex de venir le voir, et c'était le soir. Et puis, il y a eu une panne d'électricité. Donc, ils se sont parlé dans l'obscurité totale. Et Jean y a vu ce que André Breton appelait le hasard objectif. Il a vu qu'il ne s'entendrait pas avec André Breton. André Breton croyait voir là, chez Jean, le modèle de ce qu'il cherchait chez un peintre, c'est-à-dire la peinture automatique, d'une certaine façon. Jean n'était pas automatique.
Jean de Gotex revendique de n'avoir guère subi d'influence au-delà de ses contemporains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a tout de même des figures, des œuvres qui ont pu travailler son œuvre ? Pierre Vatte.
Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui revendiquent d'avoir eu des influences. Ils préfèrent rappeler qu'ils sont uniques et que tout est sorti d'eux-mêmes. C'est, de fait, si je devais chercher, je prendrais les choses à l'envers, en fait. Une partie de l'œuvre de Gotex est une partie où la gestuelle évoque quelque chose de l'ordre d'une forme de calligraphie, mais d'une forme de calligraphie abstraite, comme une écriture qui serait complètement détachée de sa fonction d'écriture, qui devient comme une sorte de geste d'écriture. Et on connaît l'histoire. Un jour, André Breton vient dans l'atelier de Gotex, il voit le travail de Gotex, et c'est lui qui va lui offrir un livre sur l'art du tir à l'arc, etc., des moines zen. Et dans le fond, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait de Gotex. De Gotex va accepter cette lecture, l'idée du moine zen, c'est Breton qui l'apporte. De Gotex, quand il fait ça, il se fiche complètement de la question du moine zen, c'est Breton qui apporte l'interprétation, et de Gotex, ça c'est le côté pragmatique, il va finalement accepter l'interprétation, parce que l'interprétation va permettre de construire une réception de Jean de Gotex, de construire une image. Cette image va avoir une forme d'efficacité et elle va lui permettre de s'inscrire dans une histoire. Vous voyez, donc c'est plutôt ça que la question de l'influence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait quelque chose, il n'y a pas de discours théorique qui précède la chose, il y a beaucoup plus d'empirisme, et à certains moments, il y a des gens qui viennent construire une histoire autour de ça, et il va s'y conformer parce que cette image a une forme d'efficacité. La personne à qui on pourrait le comparer de ce point de vue-là, c'est Hans Hartung, qui est absolument pas un théoricien, mais un pragmatique autour duquel des réputations se construisent, en grande partie erronées, mais extraordinairement efficaces. Et donc, il va fournir au public l'image que le public veut voir. Je ne crois pas que de Gotex, qui était un homme plutôt du retrait, qui vivait de manière très discrète avec René Bellon, je ne crois pas qu'il se souciait énormément de ces questions-là.
Mais alors, il y a un artiste qui mettait au sommet de son panthéon personnel, c'est Matisse.
Dominique Bollinger.
Avec Matisse, il trouvait une affinité profonde et il a beaucoup lu les écrits de Matisse, médité sur les écrits de Matisse. Je comprends mieux maintenant peut-être, mais à l'époque, je ne saisissais pas très bien ce qu'avait été le principe de ses goûts. On était allé aux Pays-Bas avec lui dans un des rares voyages qu'on avait réussi à lui faire. Enfin, les Vermeer, ça l'intéressait pas. Rembrandt, bof bof. Par contre, Franz Hals, ça l'avait intéressé. J'ai cru comprendre que ce qu'il y avait chez Franz Hals, une énergie. Il y a une énergie, un dynamisme dans la peinture de Franz Hals. La touche est très vivante et vigoureuse. Et il avait découvert Franz Hals à cette époque. Alors, il y a les artistes qui étaient ses contemporains, pour lesquels il avait beaucoup d'admiration et d'estime. Martin Barré. Il a été quand même intéressé par l'œuvre et les écrits de Mathieu, mais ça a vite tourné à la brouille retentissante. Avec Antaille, il a eu un assez long compagnonnage à la galerie Jean Fournier. Ça s'est mal tourné parce que Jean Fournier, avait une passion pour Antaille excessive du point de vue de Gotex, bien sûr. Bon, il pouvait être très charmant, etc., mais enfin, il n'était pas quand même extrêmement affectueux, si j'ose dire. Et les rapports avec ses amis ont parfois été un peu mouvementés. Il était vraiment quand même très très solitaire. Il n'a jamais arrêté de peindre et il n'y a pas de rupture franche, contrairement à ce qu'on croit, d'une période à l'autre. Il y a une continuité. C'est assez étonnant quand même de voir une personne habitée par son œuvre à ce point-là.
Vous m'avez d'ailleurs dit un jour, il n'y avait aucune différence entre l'homme et l'œuvre.
Oui, d'une certaine manière. En tout cas, une chose très précise, c'est que, qui est peut-être un hasard, mais enfin qui est quand même assez intéressante, c'est que
à la fin de sa vie, il avait les traits du visage extrêmement marqués. Son visage était marqué comme il marquait ses toiles d'incisions, de presque de scarification, et on avait l'impression que l'esprit de son visage était exactement le même que l'esprit de ses dernières œuvres.
Alors, ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois un solitaire qui n'a pas du tout cherché à faire école.
Pierre Vatt, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Panthéon-Sorbonne.
D'autres ont cherché clairement à faire école. De Gotex n'est pas dans ce genre d'aventure. C'est pas un homme du collectif. Il ne cherche pas à sortir de la peinture. Il cherche, à partir d'une économie de moyens, à recommencer et à réinventer la peinture. Dans le même environnement, il est évident que des gens, notamment Claude Viala, qu'il a connu, Pierre Buraglio, d'autres qui vont former Support Surface, ils ont très probablement regardé cette source-là parce que c'était pour eux très passionnant de voir cet homme qui réinvente la peinture à partir de moyens extrêmement triviaux. J'ai souligné dans certains textes la question du bricolage chez De Gotex, au sens du bricolage intellectuel de Lévi-Strauss, d'un homme qui invente, d'un artiste qui réinvente en permanence son métier en fonction des choses trouvées. Un jour c'est des clous, un jour c'est autre chose, un jour c'est en Bretagne peindre sur la plage et la pluie qui tombe, et c'est l'eau de la pluie qui va faire la peinture d'une certaine manière. Donc cette manière de faire avec ce qui est déjà là. Donc ça va d'une certaine manière faire école, mais lui-même ne va jamais chercher à faire école. C'est une lecture rétrospective de son travail par d'autres qui l'inscrit dans une forme de généalogie.
Serge Thiers, vous êtes restaurateur d'art. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait la connaissance de l'œuvre de Jean de Gotex ?
Je suis arrivé à Paris en 78. Je sortais des Beaux-Arts et je venais faire des études de restauration. Et j'ai eu la chance de le suivre à travers son travail à plusieurs reprises, dans le cadre d'expositions, dans des galeries, dans le cadre de musées également, et de salles des ventes, car on en voyait souvent dans le commerce à cette époque-là. Car c'est un artiste qui a été, à mon avis, très porteur sur le plan intellectuel pour toute la nouvelle génération de cette époque, notamment Support Surface, mais aussi des poètes, des musiciens de la nouvelle génération. On se rend compte aujourd'hui que c'est un artiste qui a dit beaucoup de choses qu'on n'a pas bien comprises à ce moment-là. On l'a très vite enterré, il n'a plus été à la mode. Alors ça devait être un personnage assez difficile, hein, qui s'est fâché avec beaucoup de galeristes. Et aujourd'hui, on commence à le revoir, et moi c'est un artiste que j'adore, voilà, qui correspond aussi à ma sensibilité.
Nous sommes ici devant une œuvre sans titre de 1963 que vous avez été amené à restaurer.
Alors, c'est une œuvre que j'ai tendue sur châssis. Donc, j'ai eu souvent des œuvres de lui qui étaient libres. Ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est la manière de réaliser son travail. J'ai appris qu'il réalisait souvent à plat. Il avait abandonné le chevalet, mais il avait une vision verticale. Hein, c'est-à-dire que l'œuvre prenait une nouvelle dimension lorsqu'elle était au mur. Donc, je l'ai tendue sur châssis. J'ai dû la décrasser. Elle avait déjà subi l'action du temps, de l'air, de la pollution. Et c'est vrai que je suis fasciné par sa manière de réaliser son travail. Il attache une importance particulière au fond. C'est un travail de peintre. Il utilise une toile. Là, en l'occurrence, c'est une toile de lin qu'il a enduite avec une préparation, à mon avis, acrylique. C'est drôle parce qu'il avait aucune formation. C'est un autodidacte, mais il regardait beaucoup ce que faisaient les autres, et donc il a utilisé la même chose que les peintres de son époque. Donc là, je pense que c'est une préparation acrylique avec un fond très très léger, avec une brosse très large, et on voit tous les stries. Ces stries sont voulues. D'ailleurs, il reprend pas. C'est une couche, hein, c'est pas plus. Et cette couche est griffée. on voit une sorte d'écriture qui lui est propre, qu'il a continué à pratiquer pendant longtemps, jusqu'au moment où il s'est détaché du matériau de la peinture pour aller vers des choses beaucoup plus abstraites sur le plan formel. Hein. Là, on a des griffures, une sorte d'éraflure même. On sent que c'est éraflé, c'est plus qu'une griffure puisque c'est assez large. On a aussi, donc en sous-jacent, ces croix noires, très dures, qui correspondent à la période où il a perdu sa fille. Donc je pense que c'est cette période-là. En plus, on a un fond rouge, donc c'est tragique, c'est violent. Le rouge a une importance vraiment majeure dans le travail de Gotex. Là, il a une signification de révolte. Voilà, il s'oppose à ce qui lui arrive.
Selon vous, la mort est aussi un marqueur fort de son œuvre, et notamment ce X qui apparaît dans son œuvre et que vous mettez en relation avec la disparition de sa fille.
Non, je vous disais que je l'avais vu donc dans son petit atelier de la rue Saint-Jacques, au dernier étage. Tout était nu, il avait retourné tous les tableaux, après la mort de sa fille, retourné tous les tableaux pendant un an, il n'avait pas peint. Mais il avait écrit contre la porte intérieure de l'atelier un petit X et un point d'interrogation à côté. Et il regardait toujours ce X et ce point d'interrogation. Et quand il a repris le travail, on a trouvé le X partout, sur tous les tableaux, il y avait ce X. Des tableaux noirs, par exemple, de la série des médias, sont faits d'une partie... à l'encre, une partie à l'acrylique. Entre les deux, il arrache une petite bande blanche pour faire ressortir la peau, la partie endoscopique de la surface. Et puis, au-dessus, il trace un X en creux avec un tournevis, un X. Et peu à peu, au cours de la vie, il a eu quand même... Il est mort à 70 ans, il a donc eu le temps de donner à son œuvre toute l'extension qu'il souhaitait. Peu à peu, le X s'est intégré à la peinture, c'est-à-dire que la mort s'est intégrée à l'art. C'est par la peinture, par le bonheur que lui donnait la peinture, qu'il a réussi à intégrer, à amener à sa fille avec lui, sa fille morte avec lui, et elle a peint avec lui, et il y a une joie dans tous ses tableaux, une joie merveilleuse.
Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il s'intéressait beaucoup à la politique. Est-ce que vous avez le sentiment que les événements politiques et sociaux affectaient son travail même ?
Oui, il y a eu un moment, semble-t-il, des années 70, où vraiment il a créé une série d'affiches... en faveur du mouvement de 68. Donc, il a beaucoup travaillé le rouge, le noir, placé des lettres au pochoir sur ses affiches, des slogans 68. Bon, ce sont des œuvres, enfin, dont certaines sont très belles. Il s'est toujours maintenu tout à fait à l'écart de mouvements d'artistes proches du PC qui voulaient faire de l'art, d'y engager, etc. Non, ça, il n'a jamais participé à ce genre de mouvement. Mais il a toujours été extrêmement concerné par... Alors, bien entendu, le mouvement ouvrier et la gauche, enfin, à travers tout son... destin chaotique. Je ne vois pas d'influence directe de son engagement politique. Mais il était quand même très cohérent dans l'ensemble de ce qu'il faisait et il peut y en avoir un rapport.
Quand il dit que la question de l'économie de moyens est une question éthique, je pense qu'il veut aussi dire que c'est une question politique. Notamment à ce moment-là, dans ce contexte dans lequel d'autres courants artistiques qui vont être dominants vont s'emparer de la question de la société de consommation, de la question du reste, du rebut, de l'accumulation, etc. Enfin bref, si on regarde, si on se souvient que de Gotex est contemporain, par exemple en France, des nouveaux réalistes ou du pop art, etc., et Dieu sait que ça ne se ressemble pas beaucoup, ce qu'ils font, on est chez lui dans une éthique, dans ce que l'artiste Pierre Buraglio, qu'il a bien connu, appelle pour lui-même une économie du pain perdu, et qui clairement pour moi est un geste politique.
Bon, c'était un anarchiste, et il se revendiquait anarchiste, mais en fait, il disait que les idées politiques, on doit les exprimer par des inventions formelles quand on est peintre. Voilà, on lui avait beaucoup reproché d'avoir accepté de peindre à l'expression Pompidou de 1972, où beaucoup de peintres avaient refusé de participer, ou alors de participer, beaucoup ont participé, mais le premier jour, à la fin du vernissage, ils sont tous sortis avec leurs œuvres, et ils ont évacué alors lui, non, il a fait une série de grands tableaux qu'il a appelé la révolution continue. C'est un trou qui passe d'une et qui fait une sorte de révolution qui passe d'un panneau à l'autre, mais on peut prendre le mot continue comme un adjectif, donc la révolution continue, c'est une révolution qui n'arrête pas, c'est la peinture, ou on peut prendre le mot continue comme un verbe. Allons-y, la révolution continue, n'est-ce pas? Donc voilà l'humour de Jean, et en même temps sa résolution de ne pas sortir de la peinture. La peinture n'a rien à dire, la peinture ne parle pas, ne communique pas, la peinture est désintéressée.
De Gotex, il y a quelque chose qui est extraordinairement empirique et pragmatique chez lui. C'est pas du tout un homme de la théorie, c'est pas un homme du concept, c'est un homme du faire. C'est vraiment un homme qui cherche l'adéquation entre le faire et l'œuvre. Et tout, si j'ose dire, tout fait ventre, tout fait œuvre. Il y a cette image que je trouve magnifique, c'est en mai 68, où il va sur les barricades, il est convaincu, politiquement, il est de ce côté-là de Gotex, hein. C'est un homme du mouvement, c'est pas un homme de l'immobilité et du « c'était mieux avant ». Et il va sur la barricade pour aller sur la barricade, et comme tout le monde le sait, on a arraché les pavés, ils tiennent avec des sortes de clous, et il voit les clous au sol, il se dit « tiens ». Et il se penche et il ramasse les clous, il les met dans la poche, pas pour les envoyer sur quelqu'un, mais en se disant « tiens, ça pourrait peut-être servir pour la peinture ». Donc il y a vraiment chez lui cette manière de passer sa vie à explorer la peinture et les moyens de la peinture et de renouveler. C'est un homme du recommencement permanent de la peinture. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, vous me demandiez un petit peu si on peut périodiser cette œuvre. Alors, je n'ai pas forcément toutes les dates en tête, mais une chose que je peux dire, c'est effectivement, c'est une œuvre qui avance d'un point de vue cyclique sur des questions de renouvellement, parce que de Gotex ne cesse de réinterroger les moyens de la peinture. C'est pas un homme de l'habitude. C'est un homme de la réinterrogation. Et la fin de sa vie, par exemple, les choses qui sont moins connues, des travaux sur bois et une série extraordinaire avec des briques peintes, c'est incroyablement différent dans les moyens du de Gotex du début, mais spirituellement, fondamentalement, ça travaille sur ce même souci de pouvoir faire de la peinture avec presque rien. Et ce sont des œuvres, si on ne savait pas que c'était du de Gotex, qu'elles apparaissaient dans le contexte des années 70-80 où elles sont apparues simplement, on pourrait le mettre en relation avec des jeunes artistes, avec de l'époque, avec Support Surface, avec d'autres, parce qu'il est dans une forme de réactualisation permanente.
Lui-même s'oppose à une lecture qui identifierait des périodes disjointes dans son œuvre et insiste beaucoup sur la cohérence et sur un mouvement qu'il qualifie de mouvement en spirale.
Oui, chez de Gotex, comme chez beaucoup d'artistes de cette génération, le temps est spiralé. Alors ça veut dire quoi, spiralé? Ça veut dire que c'est difficile d'expliquer, de faire un geste à la radio, c'est-à-dire d'expliquer que pour aller vers l'avant, il faut repartir en arrière pour avancer plus, puis repartir en arrière pour avancer toujours plus. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui s'auto-nourrit d'elle-même, mais dans un rapport critique, c'est-à-dire dans lequel il va toujours puiser dans ses bases initiales, mais pour ensuite, chaque fois, engendrer de nouvelles métamorphoses. Ce qui est très clair, c'est que de Gotex nous aide à comprendre qu'un certain nombre de mythes modernes, et notamment le mythe de la rupture, chez lui, en tout cas, ça n'a strictement aucun sens. La peinture, c'est une action, et c'est une action existentielle. Qu'est-ce que je fais? Je peins. Pourquoi? Que faire du temps? Hein, que faire du temps? Le temps, de Gotek, c'est quelqu'un qui a répondu à la question de que ça veut dire quoi vivre. Mais la solution qu'il a trouvée pour vivre, ça s'appelle faire de la peinture. Donc finalement, on est dans un rapport qui n'est qu'un rapport à soi-même d'exploration et d'approfondissement de l'exploration. Il ne peut pas y avoir de rupture dans ces conditions-là, puisque c'est une aventure intérieure.
Jean savait regarder un débris sans intérêt.
Maurice Benhamou.
Un clou rouillé, une vieille brique, une planche à laver usée, jusqu'à en extraire une idée plastique. Et au-delà, une révélation d'ordre spirituel. Il lui arrivait de ramasser des bouts de bois, de carrelage, de n'importe quoi sur une décharge. Il les posait sur une étagère, et il attendait de ces objets qu'ils éclosent. Cela pouvait durer des années. Soudain, un jour, sans qu'il les ait touchés, ils étaient devenus des œuvres d'art. Parfois, il leur venait en aide, mais son apport était minime et respectueux. Pardon, je vais décrocher une œuvre, là. Voilà une brique. Qui est bréché, etc. Alors, cette brique restait longtemps sur une étagère. Un jour, alors elle n'était pas comme ça, elle était couverte de plâtre, elle avait été ramassée sur une décharge. Il a eu l'idée simplement de la couper en tranches et de la reconstituer avec des baguettes de bois. Et à ce moment-là, elle a quitté un peu le monde naturel. C'est devenu un objet plus raffiné. Mais ce qui l'a intéressé, c'est pas tellement la forme de cette brique, etc. C'est qu'en la sciant, il a fait tomber de la poussière. Il a ramassé la poussière des briques. Alors, on a une très belle chose de Jean de Gotex. Il prend la poussière, ça c'est la fin du processus qui a duré plusieurs années. Ça, ce tableau est la fin du processus. Il prend la poussière. Et alors d'abord, il en colle, si vous voyez la colle, tout autour. Il laisse pleuvoir la poussière de la brique au-dessus de ce papier qui est encollé légèrement sur une petite bande d'environ 1 centimètre tout autour. La poussière se colle et crée des petits amas de poussière de la brique. Bon, mais la poussière se répand aussi sur la partie qui n'est pas encollée. Donc, il secoue le papier. La partie qui n'est pas encollée perd sa poussière et nous n'avons plus de traces de la brique que sur le pourtour. Et un miracle se produit, c'est que le papier, qui était blanc, est devenu une lumière. Il n'y a plus de briques, mais il y a une lumière de briques.
Serge Thiers, donc là on est devant une œuvre qui s'intitule « Ligne report et cru papier » et qui date de 1978 et qui est une œuvre que vous allez être prochainement amené à restaurer.
Elle est constituée d'une toile de coton clair, légèrement beige de par son induction, induction probablement de colle. Et sur cette toile, donc elle est grande, hein, elle fait 3 mètres et quelques, hein, sur 2 mètres et quelques. Sur cette toile, il est venu coller des papiers très fins, une sorte de papier de soie. Non, ici, non, c'est un papier, c'est pas un papier de soie, c'est un papier peut-être buvard, puisqu'on voit, il y a une sorte de grain. Là, on a quelque chose d'intéressant, parce que cette toile a été pliée, donc c'est ce qu'on appelle les reports, avec
à partir d'un outil, il utilisait une règle en châtaignier. Donc toujours pareil, ce rapport à la matière, ce rapport à la nature, aux matériaux, était vraiment primordial. Donc il a plié sa toile de manière très régulière, de manière un peu obsessionnelle d'ailleurs, parce que il faut déjà envie de faire autant de stries comme ça sur toute une toile, de manière aussi régulière. Alors c'est régulier, mais pas tant que ça. On sent que il a fait comme il a pu, il a pas fait ça comme on le ferait à l'ordinateur aujourd'hui. Il a fait ses plis comme ça, il a créé des sortes de reliefs. Il a dû le faire sûrement en quatre parties, il a dû plier sa toile en quatre, puisqu'on voit une sorte de croix qu'on avait précédemment, et là on est quand même très tard. Hein. Donc il a dû plier sa toile en quatre, et on a une partie en haut qui a dû être réservée, puisque, ou alors il a dû poser sûrement un fond léger, laiteux, de colle et de blanc d'Espagne ou blanc de Meudon. Donc on a quelque chose de plus clair. Et tout autour, la matière est jaune. Alors cette matière plus jaune, je pense qu'elle est intentionnelle. Ce n'est pas un vieillissement, puisque on a la même couleur sur la tranche. Et donc je pense que c'est la toile qui est légèrement jaunie. C'est une toile écrue, sans aucune préparation. Donc sa préparation, en fait, son travail de couleur, qui est extrêmement léger, puisqu'on est dans des tonalités de gris, de blanc, de beige, se situe que dans la partie centrale. La partie qui est en papier, donc est plus blanche, elle a des sortes de reliefs qui sont liés, à mon avis, au fait qu'il a fait des cloques, tout simplement, totalement accepté dans son travail. À mon avis, ça devait même lui plaire. Des déchirements par endroits, pareil, ce ne sont pas des altérations. Et donc, ça correspond parfaitement. Les déchirements correspondent au fait que ça a été réalisé plié. Évidemment, on ne le voit pas du premier coup. Mais là, on comprend du fait que ces parties qui sont absentes dans la partie inférieure se retrouvent collées sur la partie supérieure. Et je crois qu'il avait ce culte du défaut. Il laissait beaucoup faire les choses. Il vivait avec la matière. Et ça, c'est un esprit zen.
Oui, c'est-à-dire que, comme tous les artistes, c'est un obsessionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean du Gotex ? Il dit « je cherche une forme ». Je ne suis pas capable, moi, de vous dire pourquoi il cherche cette forme-là. C'est comme une sorte de motif inconscient qu'il pourchasse toute sa vie et qui a sa propre motivation. Ce qu'il nous raconte, c'est que son œuvre, c'est une métamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour reprendre un terme d'Henri Michaud sur quelqu'un d'autre, c'est sur Paul Klee, c'est une aventure des lignes, l'œuvre de Gotex. C'est une ligne, et cette ligne, de temps en temps, elle n'est que ligne, et puis de temps en temps, elle se tord d'une autre manière, et elle va devenir signe, et puis de temps en temps, elle devient lisible, et on est à la lisière de la question de l'écriture, et puis de nouveau, elle se défait, et elle devient simplement ligne, les lignes bois de la fin. Donc c'est quelqu'un qui nous dit « j'ai poursuivi un même chemin toute ma vie », mais ce chemin, il est fait de ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire les différentes étapes d'une métamorphose. Je n'ai poursuivi qu'une seule et même chose. Qu'est-ce qu'il fait de Gotex ? Il fait un monde, et ce monde fonctionne comme la nature. C'est une sorte d'équivalent de la nature qui est régi par ses propres règles, mais au sein duquel ceux qui règnent, ça s'appelle l'unité. C'est-à-dire que les métamorphoses n'impliquent jamais la rupture, elles sont au contraire les manifestations d'une sorte de matrice commune.
Vous avez qualifié Jean de Gotex de sourcier. Pourquoi le choix de cette image, Pierre Watt ?
J'avais oublié cette image-là. C'est parce que le sourcier, c'est celui qui, dans une sorte de croyance comme ça, presque vernaculaire, qui est capable, avec un petit morceau de bois tordu en V, de repérer l'endroit où il y a de l'eau. C'est vital. C'est vital. On fait appel à lui quand c'est extrêmement important. Et Jean de Gotex, c'est celui qui est capable de repérer devant lui la chose, non pas qui va donner de l'eau, mais la chose qui va pouvoir donner de la peinture. C'est-à-dire que son travail est un travail d'invention au sens archéologique du terme. C'est-à-dire qu'il est celui qui, tout à coup, dans le clou, dans le débris, dans le morceau de bois, dans la brique, voit le potentiel pictural. C'est vraiment un homme de la révélation du potentiel pictural des choses. Faire de la peinture, pour lui, c'est jamais un travail ex nihilo, c'est un travail de révélation. Il est sourcier dans le sens où il dit « Ah, il faut creuser là, il y a de la peinture ».
en dépit de l'importance de son œuvre que beaucoup de personnalités du monde de l'art s'accordent à reconnaître, Jean de Gotex est aujourd'hui moins connu du grand public que certains de ses contemporains. Comment vous l'expliquez-vous ?
Je l'explique assez facilement. C'est un peintre, et il n'y a plus de peinture. Je me souviens, un souvenir qui me revient là, on avait vu, je ne sais plus en quelle année, une grande queue devant un musée, mais une queue absolument énorme. Alors j'ai dit, je disais à Jean, mais tu vois, quand même, les gens, ça les passionne, hein. Il me dit, mais Maurice, tu te trompes totalement. C'est une horreur, c'est terrible ce qui arrive. C'est terrible de voir des gens qui font la queue pour aller voir de la peinture, etc. Alors que la peinture, c'est un rapport de l'un avec le tableau. Il ne peut pas y avoir des foules comme ça. Quand il y a des foules, c'est qu'elles vont voir autre chose. Elles vont voir des images. Elles resteront pas une seconde devant un tableau. La peinture ne s'adresse qu'à une personne. Le tableau s'adresse qu'à une personne.
Écoutez, je crois que,
Dominique Bollinger.
On dit maintenant qu'un artiste, c'est 20%, ou soyons plus gentils, 50% de création et 50% de relations sociales, de tactique, de stratégie, etc. C'est pas qu'il négligeait totalement cet aspect, mais je crois qu'il... ma mère et lui n'étaient pas tout à fait capables de se lancer à fond dans ce panier de crabes. Ça a joué, c'est sûr. Et puis, une chose qu'on a toujours dit, et je crois qu'il est tout à fait exact, enfin, c'est que il y a eu un moment où il était en pleine ascension, et il fallait aller aux États-Unis à ce moment-là. Il fallait éventuellement s'y établir, y travailler un moment, etc. Alors, Jean Dupuis, un de ses amis, a beaucoup insisté pour qu'il vienne, mais ça, c'était un des aspects de sa personnalité. Parce que il y avait des moments d'angoisse assez forts et il n'aimait absolument pas voyager. Il n'aimait pas voyager. Le tourisme, c'était l'horreur. Et il y a des gens qui se sont occupés de lui, enfin des galeristes, ils lui ont reproché de ne pas avoir fait le travail indispensable de promotion, etc. Bon. Alors c'est une œuvre très considérable, aussi bien en quantité qu'en qualité. Enfin, moi, je suis convaincu, enfin, que c'est une très grande œuvre. Pas mal de gens s'accordent pour dire que, on peut encore rattraper le temps perdu.
Alors, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Il y a un premier facteur qui s'appelle la mode. C'est-à-dire que, comme pour son malheur, son œuvre est apparue dans la deuxième moitié des années 50... Jusqu'à récemment, les années 50 n'étaient pas du tout à la mode. Je suis en train de travailler sur Hans Hartung. L'œuvre d'Hartung, c'est en train d'exploser littéralement. Il y a quelques années, c'était tout à fait ringard. On pourrait multiplier les exemples. On peut voir aujourd'hui ce qui est arrivé à l'œuvre, Dieu merci, de Chimon Antaï, qui est un peintre extrêmement important, bien connu de Gotex. Il y a un effet de rattrapage, il y a un effet cyclique. Les choses sont en train de revenir. Par ailleurs, l'œuvre de Gotex... pas rentrer dans le détail, mais a souffert, je pense, aussi de tensions autour de querelles d'héritage, autour de ses héritiers. Donc ça, c'est un grand malheur quand les gens se divisent autour d'une œuvre, puisque c'est très compliqué de monter des choses avec des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je crois que les choses, de ce point de vue-là, sont aussi en train de s'arranger. Ça a également joué, probablement.
Alors, au-delà de ce que vous connaissez de l'œuvre en tant qu'historien de l'art, quelles sont les œuvres dans le travail de Jean de Gotex qui vous touchent particulièrement, Pierre Vatt ?
Celle que je volerais en premier. Je partirais avec une brique. D'abord, c'est plus facile, parce que son œuvre est souvent dans le... Il y a parfois des très très grands formats. Oui, je choisirais une brique, parce que pour moi, elle concentre toutes les... qualité de l'œuvre, la qualité de sourcier, une brique, c'est totalement trivial. Et donc c'est déjà une chose trouvée, et cette chose trouvée, il intervient sur elle avec des moyens de couleur extrêmement élémentaires pour en révéler le potentiel pictural. Ensuite, c'est pas un tableau, c'est une brique. Ça permet aussi de comprendre que de Gotex, il parle de la forme tableau, mais il a une conception, enfin c'est vraiment le tableau dans un champ élargi. C'est peut-être une chose qu'on n'a pas dite, mais c'est vraiment quelqu'un qui passe son temps à interroger les limites du tableau. Cette question de l'épaisseur, c'est une question de se heurter en permanence au tableau comme une forme d'écran. C'est Pierre Buraglio qui dit ça à propos de son travail, qui dit que de côté c'est celui qui nous rappelle que les tableaux sont des écrans au sens maticien du terme sur lesquels on finit par se casser le nez. C'est la question des limites. Mais en même temps, la brique, c'est une façon, c'est une forme qui rappelle la forme tableau, mais c'est une forme tridimensionnelle, donc qui nous renvoie à la question de la sculpture. Et il y a tout ce travail incroyable, très peu connu de la fin, avec des bois, qui permet de faire quoi? Ben de, dans son aventure des lignes, de prolonger l'aventure de la ligne au-delà de la question du tableau. Donc là, avec la brique, on est dans une forme de carrefour. C'est extrêmement économe, c'est d'une puissance de diffusion autour de l'œuvre tout à fait extraordinaire. Je pense que ça condense un certain nombre des qualités de ce que j'aime dans la peinture de De Gotex.
Alors, deux ou trois œuvres qui me touchent particulièrement.
Maurice Benamou.
Il y a cette grande toile report qui est une sorte d'achèvement, un objet de méditation plus qu'une toile. Il y a quelque chose dense qui est une toile qui est faite de trois gestes. Non, de quatre gestes. Et voilà, ce sont deux chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, il y en a beaucoup. Et puis, en même temps, l'idée de chefs-d'œuvre appliquée à Jean n'est pas très juste. C'est pas très juste. C'est l'œuvre qui est un chef-d'œuvre, mais il ne cherche pas le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est un genre, d'une certaine façon. On fait un chef-d'œuvre. Il n'a jamais cherché à faire un chef-d'œuvre.
Non, ce qui est primordial pour moi, c'est d'agir. Et j'aimerais d'ailleurs solliciter ça chez le regardeur. J'aimerais provoquer une action, pas la même, mais une action. Aussi bien contemplative, parce que la contemplation est une action, contemplative que active. Et c'est ça vraiment toutes les constantes de mon travail. Là, on les retrouve même à partir du geste, même à partir de l'abstraction lyrique. Si on regarde un objet que j'ai fait, je voudrais, mais je ne sais pas si j'atteins ce but, je voudrais que ça provoque un désir de faire. Le même désir et le même plaisir que j'ai, moi, de faire les choses. Mais évidemment, ce ne serait pas les mêmes, parce qu'il faudrait la même chaîne, le même processus pour arriver. Mais que ça provoque quand même que ça donne cette impulsion, à mon avis vitale, à mon avis essentielle. Je trouve qu'il y a une telle urgence de problèmes, de choses, qu'on ne peut pas être à court d'idées, c'est pas possible.
Jean De Gotex, à l'essentiel. Un documentaire de Sophie Maurer, réalisé par Yvon Croisier. Avec Dominique Bollinger, beau-fils de Jean De Gotex, Serge Thiers, restaurateur d'art, Maurice Benamou, critique d'art, Caroline Bouteiller-Laurence, historienne de l'art, Pierre Vatt, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Panthéon-Sorbonne. Et la voix de Jean De Gotex, issue de l'émission Photoportrait, diffusée sur France Culture le 6 février 1988. Archive INA, Marie Chauveau. Une vie, une œuvre. Attachée de production, Pascaline Bonnet. Coordination, Christine Bernard.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Juliette Testa. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.